Voilà, on va commencer, on va prier si vous voulez. Notre Dieu, avec ses perspectives de la faculté, nous voulons aussi te remettre ces moments que nous vivons maintenant sur cette réflexion de la pratique pastorale. Nous te demandons de nous conduire, de nous faire du bien. Nous nous remettons chacun à toi dans ce que nous vivons, mais aussi dans ce que nous vivons pour le ministère. Et nous te demandons de mettre ta main, de nous protéger et de nous enseigner au nom de Jésus-Christ. Amen. On a donc un cours de 12 heures dont vous avez le plan ici. Et on va faire ce matin une réflexion générale sur la pratique pastorale. Alors, je parle plutôt de pratique pastorale plutôt que de relation d'aide. À mon sens, la relation d'aide est une technique de psychologie, alors que la pratique pastorale, c'est le ministère du pasteur qui va mettre au centre la personne de Dieu, la parole de Dieu, l'Esprit Saint, pour faire quelque chose. Et cela ne veut pas dire qu'il n'utilise pas des techniques, mais ça veut dire que c'est à l'Esprit de Dieu qu'il va... comment dire, autour duquel il va mener sa pratique pastorale, alors qu'en général, dans la thérapie, on va prendre une technique et on va peut-être prier, on va le faire dans une démarche chrétienne, mais c'est la technique qui est au centre. Voilà, alors si vous voulez, on pourra reparler de ces réalités qui ne sont pas très compliquées. C'est mon travail, hein, depuis l'association Appel Espérance a été faite en 88. Donc ça fait quelque temps que je fais de la pratique pastorale. Et on aura 12 heures de cours, mais ceux qui veulent qu'on en parle par ailleurs peuvent bien le faire avec moi, volontiers. Alors je vous propose, en premier lieu, commenter très rapidement les outils que vous avez dans votre dossier. Vous avez donc ce que j'appelle des tests. Le premier test, c'est celui que j'appelle 40 pas, qui est intitulé « Faisons du chemin ensemble ». Il y a 40 points. Et c'est un résumé, un plan de travail que j'utilise pour les gens qui viennent me voir. Mettons que la première année, en général, ils viennent me voir une heure par semaine pendant 2 ans, s'il le faut. Donc la première année, je leur donne un outil, donc 40 pas, et que je leur fais lire. Et donc ils me disent, ben moi par exemple, c'est « je me sens seul », point 19, ou bien « j'ai du mal à aimer », point 21, ou bien « je me sens souvent contraint », point 27, etc. Et ces 40 pas permettent de couvrir un ensemble de choses dans la vie chrétienne, de faire un balayage. Y compris des choses auxquelles on ne penserait pas forcément. Par exemple, point 2, je vous présente ma famille et il y a des choses dont je ne veux parler à personne. C'est sûr que si on ne veut pas en parler, on n'en parlera pas, alors que comme c'est écrit ici, la personne peut dire, oui, c'est vrai, moi je suis un peu bloqué parce qu'il y a des choses dont je ne veux pas vous parler. Un deuxième test, c'est cette... oui. Bon, on verra après ça. Donc un deuxième test, c'est cette grille en 3 colonnes qui est une grille qui permet de prendre conscience de ses souffrances. Et je l'appelle 3 clés. La clé de gauche, c'est définir mes souffrances. La clé du milieu, c'est définir ma responsabilité. Et la clé de droite, c'est définir et faire ce que Dieu me demande. Autrement dit, le résumé de la pratique pastorale, et on va le voir dans la première heure ce matin, c'est de mettre en œuvre 3 clés. Autrement dit, quand quelqu'un vient vous voir parce qu'il souffre, eh bien, vous n'êtes jamais pris au dépourvu parce que vous utilisez ces 3 clés. La première clé, c'est qu'est-ce qui ne va pas, où est-ce que vous avez mal, qu'est-ce qui se passe. Vous avez mal où, avec qui, de quelle manière, etc. Et préciser ses souffrances, C'est très important. Et ensuite, deuxième clé, préciser ma responsabilité, puis préciser la volonté de Dieu, faire ce que Dieu me demande. Voilà donc un deuxième test. Un troisième test, c'est ce tableau. Alors, dans ces 12 heures, je n'aurai pas le temps de vous expliquer pourquoi j'ai fait ce tableau. Ce tableau est issu des 21 épîtres. Hein, il y a là-dedans 21 choses avec les 21 épîtres. Et donc, c'est un survol des 21 épîtres. Je crois qu'on le verra rapidement dans une présentation, dans le cours. Et ce tableau permet d'avoir un véritable projet spirituellement valable pour la personne qui est en face de nous. Et dans la mesure où c'est une personne qui est chrétienne, on peut lui proposer quelque chose dans laquelle elle va se retrouver. Exemple, si la personne me dit par exemple je m'ennuie, donc la grande question c'est qu'est-ce que Dieu vous demande de faire aujourd'hui? Et il y a certainement des choses à faire. Et donc, on peut voir dans la colonne ici de droite, entreprenant, en dialogue, ordonné, sage, citoyen, patient, il y a des choses qui sont à voir et dans lesquelles on essaiera de rentrer quelque peu. Un test suivant, c'est les états d'âme, ici, qui sont un développé du test précédent et qui permettent à quelqu'un qui ressent beaucoup de choses de prendre conscience de ses états d'âme. Alors j'ai tout ça sous Word ou en TIFF, hein, donc si ceux qui veulent l'avoir pour leurs ordinateurs, je leur donnerai volontiers avec une clé USB. Test suivant, c'est un test qui va reprendre encore une fois l'enseignement des Épîtres et qui va, sur 60 expressions, montrer ce qu'on pourrait penser, faire un balayage sur ce qu'on pense. Donc, si je reprends les tests que nous avons vus, il y a 40 pas, qui est quelque chose de très général. Il y a les trois clés qui sont là pour sortir de mes souffrances. Et puis après, il y a trois tests essentiels qui sont le test sur les émotions, ce que je ressens, les pensées, éventuellement les obsessions, hein, ce dont je m'occupe. Et puis un troisième test qui est un test de comportement, hein, que sur trois feuilles et qui ressort de l'enseignement des Épîtres et qui sont des tests que j'ai faits qui n'existent pas par ailleurs. Hein, donc on verra comment les utiliser. Je voudrais simplement vous dire que ces tests vont vous servir à vous de matériaux pour vous-même, pour valider le cours. Hein, dans la première page ici du cours, vous avez conditions de validation, assister attentivement au cours, faire la lecture conseillée. Donc vous avez un ouvrage de Samuel Pfeiffer que vous pouvez télécharger, 187 pages, qui a pour intérêt de... c'est un psychiatre, donc de vous donner un point général sur la psychiatrie. Et la troisième partie du livre est un ensemble de modalités adressées aux chrétiens et aux pasteurs pour qu'ils puissent aider ceux qui souffrent. Donc c'est très intéressant d'avoir le point de vue d'un psychiatre. Et donc, lisez-le et vous aurez à en faire une fiche de lecture que vous garderez pour vous, mais que vous me remettrez également. Et donc, le devoir que vous aurez à faire, c'est d'utiliser les tests pour vous-même, de manière personnelle et pratique. Le nombre de pages est à votre appréciation. Mais l'étudiant qui n'approfondira pas suffisamment sera interrogé à l'oral. Hein, voilà, donc à vous de voir, on va se voir pendant 8 semaines parce qu'il y a des vacances. Et donc pendant 8 semaines, vous pouvez rentrer dans une lecture personnelle de ces tests et faire un peu comment dire, un parcours personnel avec ces tests. Et je vous conseille de me rendre ce devoir dans 8 semaines, hein, parce que ça sera, au moins ça sera fait. Et pendant ces 8 semaines, vous pourrez à l'occasion me dire je comprends pas ou qu'est-ce que je peux faire avec ça. Dans votre dossier, je vous ai mis également une prise de notes que j'ai faite avec quelqu'un qui s'appelle E, qui est une femme, et que j'ai eu la semaine dernière. Donc, voilà, vous voyez, j'ai mis 20 septembre, 6 septembre, et puis le premier entretien, je n'ai pas mis la date, je sais pas, je ne me souviens pas exactement quand est-ce qu'il a eu lieu. Et voilà, assez typiquement, donc là, je vois que tout le monde n'est pas dans la même page, je suis en train de parler de l'étude de cas, hein, de la personne qui s'appelle E. Voilà. Et donc ici, vous avez... quelque chose qui est une réalité, c'est quelqu'un que j'ai reçu. Alors j'ai enlevé, bien sûr, le nom des enfants, le nom du mari, les dates. Là, vous pourrez voir, en fait, quelque chose de tout à fait concret, hein, quelque chose que j'ai eu... Donc, quelqu'un que j'ai eu la semaine dernière, on est... aujourd'hui, on est le quoi, le 26, 27 septembre, 20, hein, 27, voilà. Et donc, je l'ai ce matin à 11h, cette personne, et ça vous donne un peu une idée de comment je travaille, de quelles sont les choses que je mets sur mon ordinateur, puisqu'en fait, je prends des notes quand je suis avec les gens, soit sur papier quand ils sont là, soit sur ordinateur quand ils me téléphonent, ou quand on est sur Skype, puisqu'en fait, les entretiens se font de différentes manières. Et ça peut être intéressant pour vous de lire ces notes et de me poser des questions également à partir de ça. Oui. Oui. Alors, je relis l'énoncé, hein, du devoir, c'est utiliser les tests pour vous-même de manière personnelle et pratique. C'est-à-dire que, par exemple, dans les émotions, est-ce qu'il y a des émotions douloureuses que je ressens? Et s'il y a des émotions douloureuses que je ressens, qu'est-ce que je vais faire avec ça?
On se prend comme propre cas.
Oui. D'accord? Voilà.
Alors là, il y a quelqu'un qui en a deux, et là, il y a quelqu'un qui n'en avait pas.
Alors, on va passer maintenant à l'étude de 1 Pierre. 1 Pierre 4, verset 12, jusqu'à 1 Pierre 5, verset 4. Je le lis. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous, qui est venu sur vous pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Mais, en tant que vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, afin qu'aussi, à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec transport. Si vous êtes insultés pour le nom de Christ, vous êtes bien heureux. Car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. De leur part, il est blasphémé, mais quant à vous, glorifié. Mais que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou comme faisant le mal, ou s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il glorifie Dieu en ce nom. Car le temps est venu de commencer le jugement par la maison de Dieu. Mais s'il commence premièrement par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, où paraîtra l'impie et le pécheur? Que ceux donc aussi qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes en faisant le bien à un fidèle Créateur. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances de Christ, qui aussi est part à la gloire qui va être révélée, baissez le troupeau de Dieu qui est avec vous, le surveillant non point par contrainte, mais volontairement, ni pour un gain honteux, mais de bon gré, ni comme dominant sur des héritages, mais en étant les modèles du troupeau. Et quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne inflétrissable de gloire. Avec ce texte de Pierre, on va Je vais rappeler très rapidement comment les choses ont pu se vivre. Pierre écrit vraisemblablement sous Néron. On peut penser que Paul ayant été à Rome entre 60 et 62, peut-être Pierre écrit au départ de Paul, de Rome, qui va laisser Timothée à Éphèse et Tite en Crète. Et Pierre écrit à la communauté judéo-chrétienne qui est sous Néron, donc 2 ans avant la grande persécution. Vous savez, quand Néron avait besoin d'éclairer Rome. Il écrit parce qu'il sait que ceux qui finalement sont persécutés de différentes manières ont des réalités auxquelles ils sont confrontés. Et donc il va leur écrire une lettre dans laquelle le mot « souffrance » et « obéissance » sont des mots-clés, des mots qui reviennent très souvent. Et j'ai retenu ce passage parce qu'il nous parle à la fois de ceux qui souffrent et de ceux qui accompagnent. Ceux qui souffrent, c'est donc la fin du chapitre 4. Et ceux qui accompagnent, ce sont les 4 premiers versets du chapitre 5. Oui ? J'ai été trop vite ?
C'était souffrance et confiance.
Et obéissance. Alors, je vous propose de voir dans ce texte, à l'égard du souffrant, ces 3 fameuses clés qui sont discerner mes souffrances, discerner ma responsabilité et discerner la volonté de Dieu. 3 fameuses clés qu'on retrouve dans cette feuille qui est pratiquement vide ici. À gauche, discerner mes souffrances, discerner quelle est ma responsabilité, discerner quelle est la volonté de Dieu à l'égard de ce que je dois faire. Pierre va dire, bien-aimés, il s'adresse à ceux de la dispersion, c'est-à-dire ceux qui ont été dispersés, ceux qui sont, ces chrétiens, mais majoritairement issus du judaïsme, et qui ont été persécutés. Il y a une persécution sous Claude, on la voit dans le livre des Actes. Et donc, il y a des difficultés auxquelles sont confrontés ces chrétiens. Et Pierre leur dit, bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous. Autrement dit, écoutez, on est appelé à souffrir, on est tous dans le même bateau, et dans ce bateau-là, Dieu est souverain. Il leur dit, finalement, voilà, vous souffrez, ce feu ardent est venu sur vous pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'ordinaire, en fait. Ce n'est pas extraordinaire de souffrir. C'est nous sommes éprouvés, mais nous avons part aux souffrances de Christ. Alors, quelles sont ces souffrances? Paul parle, par exemple, aux Colossiens, au chapitre 1er. Il a cette expression, vers le verset 25, je crois, de compléter la parole de Dieu et de participer aux souffrances du Christ, c'est-à-dire à l'ensemble des choses qui sont à faire pour que l'œuvre générale de Dieu sur la terre se fasse. Non pas l'œuvre expiatoire du Christ, mais l'œuvre générale de, finalement, d'aller vers ceux qui s'opposent, vers ceux qui ne veulent pas recevoir la parole, etc. Et donc, la première chose que Pierre va leur dire, c'est en tant que vous avez part aux souffrances de Christ, vous êtes dans ce combat spirituel, vous êtes dans cette réalité, premièrement politique, c'est-à-dire que les Juifs font partie d'une nation qui, un peu après, puisque Pierre peut écrire peut-être entre 62 et 64, en 70, la nation d'Israël va être pulvérisée. Et donc, il y a une souffrance politique de la part de ces Juifs, qui ne savent pas exactement, finalement, à quelle sauce ils vont être mangés, quel est leur devenir. Et il dit, mais si, en tant que vous avez part aux souffrances de Christ, et donc, du point de vue politique, à cette difficulté politique, l'Empire romain, finalement la toute-puissance d'Hérode et ceux qui lui succèdent, et puis aussi aux souffrances morales, aux souffrances de la persécution des Juifs sur les chrétiens, etc. Et il dit, réjouissez-vous, afin qu'aussi à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec transport. Si vous êtes insulté pour le nom de Christ, vous êtes bienheureux. Remarquez, comme Pierre va dire, En tant que vous avez part aux souffrances de Christ, si vous êtes insulté pour le nom de Christ, vous êtes bienheureux. Autrement dit, il prend le temps de poser des souffrances. Alors, cette première clé, définir mes souffrances. La difficulté de ceux qui souffrent, à votre avis, c'est laquelle ? La première difficulté, la difficulté qu'on retrouve le plus généralement, plus souvent. Quand quelque chose ne va pas, pour vous-même, quelle est votre première attitude en général ? Quand vous êtes fatigué, qu'est-ce que vous faites ? On va se coucher ?
On s'énerve, on râle.
On râle ? Hein, on peut manger du chocolat, hein, on peut boire un petit coup de Porto. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la fuite, en fait. La fuite, le mécanisme de compensation, c'est toujours la première réaction. Toujours, c'est souvent la première réaction. La fuite, le mécanisme de compensation. Hein, autrement dit, quelqu'un qui souffre, il va en général essayer de tout faire pour ne plus souffrir, sauf de s'occuper de sa souffrance. Quand je suis fatigué, je ne vais pas me demander pourquoi je suis fatigué. Je vais prendre des fortifiants, je vais aller au cinéma pour essayer de passer un bon moment, pour m'évader, en fait. Mais je ne vais pas prendre le temps de poser ma souffrance. Voilà. Si je souffre d'être dans une communauté, en fait, pourquoi est-ce que je souffre d'être dans une communauté ? Si je souffre d'être seul alors qu'il y a beaucoup de monde, pourquoi est-ce que je souffre ? Si je souffre de me regarder dans la glace, pourquoi est-ce que je souffre ? Hein, si je souffre de parler, de ne pas être entendu, si je souffre de ne pas pouvoir parler, etc., pourquoi est-ce que je souffre, en fait ? Alors c'est sûr que la souffrance que vivent ces gens-là, en tant que chrétien, est une souffrance qui est déjà posée. Elle est tellement posée que Pierre prend peu de temps pour en parler. Hein? Le feu ardent est au milieu de vous. Voilà, tout le monde le sait. Mais ce dont Pierre ne parle pas forcément, c'est de tout ce qui est lié au feu ardent. Quand il y a une persécution, je souffre peut-être parce que je ne veux pas mourir. Mais je souffre peut-être parce que je veux mourir. Mais ça ne vient pas, parce que j'en ai marre. Hein? Je ne sais pas si vous avez fait dans l'histoire de l'Église Origène. Hein? Lors du martyre de son père, il voulait être martyrisé avec lui. Et c'est, je crois, la servante qui lui a piqué ses vêtements pour qu'il ne puisse pas, sortir, pour qu'il ne puisse pas être fait martyr. Donc on peut souffrir à cause d'objectifs que nous avons. Et on pourrait dire, à cette époque-là, les gens peuvent souffrir parce que, finalement, étant juifs, ils sont persécutés par les juifs. Étant chrétiens, ils ne sont pas compris de l'ensemble des chrétiens. Étant chrétiens, ils voudraient faire cela, mais ils n'y arrivent pas. Ou alors, ils devraient faire cela, mais ils ne le font pas. Et du coup, il y en a de la culpabilité, il peut y avoir beaucoup de causes différentes à leur souffrance. La souffrance, on peut la poser grâce aux questions qu'on se pose, et vous savez que les pronoms interrogatifs ouvrent à des questions ouvertes, hein, qui, combien, comment, où. Et on peut résumer ces pronoms interrogatifs avec une petite formule intéressante. CQQ, c'est occupé. Voilà, c'est facile à retenir. Hein? CQQ, c'est occupé. C'est-à-dire, c'est comment, Q, c'est quoi, quand, combien, où. Alors le P, c'est pourquoi. Il y a encore un C occupé, encore un Q qui peut être quoi ou que. Hein, donc c'est toujours intéressant quand quelqu'un vient vous vous voir, ou viendra vous voir, mais peut-être déjà vient vous voir, et qu'il vous dit « j'ai des souffrances, mais je ne sais pas quoi marquer ». Alors vous dites « des souffrances avec qui, par exemple ?»« Ah ben j'ai des souffrances tout seul. » Bon, alors donc des souffrances qui me concernent. Donc il y a par exemple « je m'ennuie » ou bien « je ne m'aime pas » ou bien « ce que je le fais mal », etc. Et donc la personne qui souffre n'a pas tellement de difficultés à remplir la colonne de ses souffrances dans la mesure où elle a du temps pour le faire et où elle trouve quelqu'un qui l'aide à en prendre conscience. C'est QQ, c'est occupé ? Ben là, vous le trouverez. Hein. Vous faites un truc en vertical. Hein, et c'est QQ, c'est occupé. Il y a comment et combien ? Après, il y a trois Q hein, qui doivent être qui, quand et quoi. Hein, ou quel. Voilà. Et puis le O, c'est où. Et puis le P, c'est pourquoi.
Et le C, c'est
comment et combien. Et donc, toutes les questions qui commencent par ces pronoms interrogatifs sont des questions ouvertes auxquelles on ne peut pas répondre par oui ou par non. Parce que si on reçoit quelqu'un et qu'on dit « est-ce que vous souffrez ?», il vous dit « oui ». Mais ça ne fait pas avancer, en fait, les choses. Alors que si on dit « quelle est votre souffrance ?», là, il ne peut pas répondre par oui ou par non. Alors, cette première clé, c'est « ne trouvez pas étrange », un regard vrai sur la souffrance. Vous pourriez, par exemple, pendant le temps, les 8 semaines dans lesquelles vous serez avec moi, avoir un petit papier sur vous et journellement noter vos propres souffrances. Je souffre parce que j'ai trop de lectures obligatoires. Je souffre parce que j'ai des professeurs qui parlent trop vite ou trop lentement, ou le matin à 8 heures je ne suis pas réveillé, etc. Bon, autrement dit, faire une véritable liste de vos souffrances et qui vous amènera à avoir conscience, d'une part, deuxième colonne, de ce dont vous êtes responsable, et troisième colonne, de ce que Dieu vous demande à faire. Et vous comprenez bien que si vous faites ça, ben logiquement, l'année se passera merveilleusement bien. Puisque vous serez toujours en train de faire ce que Dieu vous demande. Hein, plus logique que ça, c'est difficile. La deuxième clé, donc, avec Pierre, c'est que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou comme faisant le mal, ou s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, et qu'il glorifie Dieu en ce nom. Autrement dit, Pierre est en train de dire, bon, vous souffrez, mais quelle est votre motivation, quelle est votre responsabilité dans votre souffrance ? Hein, vous souffrez parce que finalement, vous êtes, vous, judéo-chrétien, à Rome, et vous avez la trouille parce que, en fait, votre voisin vous a dénoncé, et les sbires de Néron vous ont dit que de toute façon, ce n'était plus qu'une question de jours. Donc c'est votre souffrance, oui. Mais qu'est-ce que vous avez fait au voisin depuis 5 ans ? En fait, ça fait 5 ans que vous lui dites « tu iras en enfer ». Voilà. Hein ? Et donc, c'est intéressant de prendre à la lettre ce que dit Pierre. Et en face de chaque souffrance, hein, alors voilà, je suis en deuxième, en troisième année à la faculté Jean Calvin, et donc je souffre parce que, en fait, je ne m'entends pas avec quelqu'un d'autre. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette souffrance ? Et l'examen des motivations, l'examen de la responsabilité, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Si ça vous pose une difficulté, alors, vous viendrez m'en parler à l'occasion, hein, pendant la pause. Mais c'est absolument pas difficile de savoir si je suis responsable ou pas de quelque chose. Alors, je vais prendre un ou deux exemples. En général, les mamans souffrent parce qu'elles sont inquiètes pour leurs enfants. Hein, j'ai 20-25 rendez-vous par semaine et j'ai 70% de femmes. Alors on verra, il y a un cours sur masculin et féminin. Je le donnerai un peu en condensé parce que c'est des choses que je développe pas mal. Quand une femme a un problème, elle en parle. Quand un homme a un problème, il n'en parle pas. Il réfléchit. C'est une généralité qui se retrouve le plus souvent. Après, il y a quelques exceptions, mais le plus souvent, c'est comme ça. Et donc, définir ma responsabilité, c'est très facile. Quand une maman est inquiète, en fait, « Ah, je suis inquiète, moi, en tant que maman, parce que, par exemple, je pense à notre petite dernière, hein, qui a 11 ans, et apparemment, elle va avoir ses règles. » Et donc, la maman pourrait être inquiète, ce n'est pas le cas de ma femme, hein, de ce qui va se passer. Mais dans cette inquiétude, qu'est-ce qui pourrait être tout à fait relevé? Ben, simplement que la maman fasse ce qu'elle a à faire, ce qui relève de sa responsabilité, autrement dit, dire à sa fille ce qui va se passer, lui dire ce qu'il faut qu'elle fasse, et puis lui dire, ben, écoute, hein, tu laisses venir. Mais alors, si la maman va plus loin que ce qui relève de sa responsabilité, alors elle s'occupe de quelque chose dont elle n'est pas responsable. Et c'est là où elle se fait du mal. Si, par exemple, un professeur fait un mauvais cours, est-ce que c'est de votre responsabilité? Non. Si vous êtes énervé parce qu'il fait un mauvais cours, où est votre problème? C'est que peut-être vous pensez que le mauvais cours va vous être néfaste pour votre cursus. Oui, mais Dieu est souverain. Dieu étant souverain, il permet quand même que le mauvais cours ait lieu. Et votre cursus va se trouver dans ces conditions-là. Si Dieu l'a permis, est-ce que vous avez raison de vous irriter? Mais c'est pour tout. C'est-à-dire que la question de la souveraineté de Dieu, c'est une question essentielle. Si on passe à côté de ça, et malheureusement, l'ensemble des chrétiens passent à côté de ça. C'est pour ça que je suis débordé. Hein? Ah, mais il n'est pas question de vivre naïvement, il est question de faire ce qui relève de notre responsabilité. Alors, on ne va pas trop intervenir, parce que sinon, je n'aurai pas le temps de finir, mais oui.
Non, je trouve un peu ça bizarre, de toute façon, dire Dieu a permis, donc il fera. Quand c'est votre fils se fait violer, c'est Dieu qui l'a permis.
Absolument. Ben oui. Est-ce que Dieu est souverain ou est-ce qu'il ne l'est pas? Maintenant, la question, c'est, si mon fils se fait violer, quelle est l'éducation que j'ai apportée à mes enfants? Est-ce que je prends soin de mes enfants? Est-ce que je suis près d'eux? Est-ce que j'ai accompagné, j'ai quatre enfants, est-ce que je les ai accompagnés à l'école, au collège, etc.? Est-ce que je fais attention? Ça, ce sont les choses qui relèvent de ma responsabilité. Et donc, cette notion de responsabilité, elle est phénoménale, elle est fondamentale. Et si on fait le tri entre ce qui relève de ma responsabilité et ce qui n'en relève pas, si vous saviez... combien de fois, en fouillant un petit peu dans ce genre de problèmes qui surviennent, on se rend compte justement des énormes fautes, des énormes approximations que font les parents. Alors, il ne s'agit pas, après, dans la pratique pastorale, de leur reprocher quelque chose, non, il s'agit de les accompagner dans le fait que leur souffrance, qu'ils en sortent de leur souffrance. Alors, troisième clé, première clé donc, ne trouvez pas étrange, autrement dit, posez vos souffrances. Regardez-les en face, arrêtez de les fuir, de les compenser, de les nier, etc. Deuxième clé, mais votre souffrance, que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur, autrement dit, écoutez vos motivations, ayez l'honnêteté de vous demander où est-ce que vous en êtes et quelle est votre responsabilité dans l'affaire. Troisième clé, que ceux donc aussi qui souffrent selon la volonté de Dieu, je crois que c'est le verset 19, remettent leurs âmes en faisant le bien à un fidèle créateur. Et j'ai souligné sur la feuille, en faisant le bien. Autrement dit, faire le bien, faire ce que Dieu me demande, c'est une expression aussi fondamentale. Et qui nous amènera, mais on le verra dans un prochain cours, à savoir comment discerner la volonté de Dieu. Est-ce que je peux connaître, moi, la volonté de Dieu à mon égard, instant après instant? La réponse, c'est oui. On verra ça avec, par exemple, Romains 12, versets 1 et 2, ou 2 Corinthiens 1, verset 12, on va poser des choses qui sont relativement simples, un peu le béaba de la vie chrétienne, mais aussi le béaba de la pratique pastorale. On passe maintenant à des clés universelles pour l'accompagnant. Le souffrant, Pierre lui dit, premièrement, regarde tes souffrances, deuxièmement, regarde si tu es responsable, troisièmement, fais ce que Dieu te demande. Et ça ira bien. Et Pierre va même finir en disant, je crois que c'est 1 Pierre 5, verset 10, en disant, quand vous aurez souffert un peu de temps. Autrement dit, lui, pour Pierre, la souffrance, et pourtant c'est quelqu'un qui a souffert, Pierre, c'est pas le problème. Il ne faut pas regarder la souffrance comme problème. Ce qu'il faut regarder, c'est dans les problèmes que je vis, qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire. Ça, c'est un programme de vie chrétienne raisonnable. Quatre clés pour l'accompagnant. La première, au verset 2, c'est de surveiller volontairement. Alors, on va venir vous voir et on va vous dire, mais vous êtes passé à la faculté Jean Calvin. Oh là là, c'est pas top top comme, enseignement pour aider les gens à s'en sortir. Hein. C'est un peu intellectuel, hein. Hein, on vous a appris l'hébreu, le grec, l'histoire de l'Église et autres choses comme ça, mais je viens vous voir parce que vous êtes mon pasteur. Mais... Et donc, quelle est votre légitimité, en fait? Votre légitimité, c'est l'appel de Dieu. Hein, j'exhorte les anciens à paître le troupeau en le surveillant, non point par contrainte, mais volontairement. Autrement dit, c'est volontairement que vous faites ça. Personne ne vous oblige, enfin, je suppose. Hein? C'est volontairement, c'est-à-dire que vous avez une conviction personnelle qui va faire que vous allez vous mettre, d'une manière ou d'une autre, en tout cas, dans la mission, à une place dans laquelle on va vous dire « Je voudrais vous parler ». Et votre légitimité, c'est l'appel de Dieu. C'est pas votre légitimité, c'est pas le vote du conseil presbytéral. Parce que dans le vote du conseil presbytéral, s'il y a 17 membres, il y en aura peut-être 9 qui auront voté pour vous et 8 contre. Et du coup, avec les 8 contre, vous aurez une difficulté de légitimité. Mais par contre, si vous y êtes par appel de Dieu, alors là, personne ne pourrait être contre vous. Si vraiment c'est dans une démarche personnel et volontaire que vous faites ça de la part du Seigneur, alors je crois qu'il y a quelque chose de très puissant et dans lequel les gens voudront véritablement venir vers vous. Deuxième clé, c'est ni pour un gain honteux, mais de bon gré. Et j'ai noté en grec « protumos hein, », donc vous êtes tous des spécialistes de grec ici, hein, vous êtes en deuxième, troisième année. Donc, vous avez tous fait en première année, en principe. Donc, tout le monde fait du grec et l'hébreu ici?
Non.
Il n'y en a qu'un qui n'en fait pas? D'accord. Et donc, le thumos, c'est quoi? C'est le mouvement de l'âme. Hein, le thumos. Epithumia, c'est la convoitise, c'est le désir. Et le prothumos, c'est littéralement la préparation. Hein, c'est ce mouvement intérieur de l'âme. Et donc, de bon gré, c'est en fait que toute l'énergie qui est à l'intérieur, je la consacre pour une bonne chose. De bon gré, ça doit être le verset 2 ou 3. Je ne sais pas, je n'ai pas ma Bible ouverte. Verset 2, je pense. Troisième clé pour l'accompagnant, c'est étant les modèles du troupeau. Et croyez bien que si je suis souffrant, que je viens vous voir, le premier message que vous me donnerez, c'est ce que vous êtes et ce que vous manifestez. En hébreu, visage se dit panim, bravo. Hein? Et donc panim veut dire littéralement manifestation de soi. Ça laisse rêveur, hein, hein? Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on manifeste, en fait. Vendredi, je suis allé voir une personne qui s'est défenestrée. Et je ne sais... Pardon ? Elle n'est pas morte. Voilà. Et donc, en fait, j'y suis allé sereinement parce que j'y suis allé avec mes trois clés. En fait. Elle demande à ce que je vienne la voir. J'y vais. Et donc, quand elle m'a vu, un de ses premiers mots, c'est « voilà le visage de quelqu'un qui est heureux ». Pourtant, moi, j'allais voir une défenestrée. Alors, après, on peut flatter, on peut, etc. Mais dire que c'est important quand on reçoit quelqu'un qui souffre, en fait, notre visage va faire transparaître tout ce à quoi nous pensons. Le visage, c'est la manifestation de soi. Waouh ! On pensait qu'on pouvait être avoir un jardin secret. Apparemment, c'est pas trop le cas, quand même. C'est un peu le cas, mais pas trop. Parce que, justement, le visage, les émotions, l'attitude, le comportement... Tout cela manifeste ce que nous sommes à l'intérieur. Ça n'existe pas dans la ville, Dr. Jekyll, Dr. Hyde. Parce qu'en fait, Hyde, on le retrouve toujours quelque part, en fait. Étant les modèles, autrement dit, le Seigneur Jésus a dit, l'esclave n'est pas plus grand que son maître. C'est-à-dire que le maître amènera l'esclave à la hauteur de ce que le maître est. Donc, l'accompagnant amènera le souffrant à résoudre les problèmes que l'accompagnant aura résolus. Donc, vous avez intérêt à résoudre vos problèmes. Et puis, dernière chose, verset 4, « Vous recevrez la couronne inflétrissable de gloire, la récompense étant pour plus tard. » Autrement dit, ce qui est absolument certain, c'est qu'il ne faut pas être dans le résultat. On ne peut jamais mesurer ce que va devenir notre accompagnement. Et quelquefois, les souffrants disent « Alors, qu'est-ce que vous en pensez de mon cas ?» Vous dites ben, « On a passé un temps, une demi-heure, une heure, avec le Seigneur pour s'en occuper. Alors certainement, il intervient, on ne sait pas comment. Mais il se passe des choses. Donc on lui fait confiance, on se réjouit vraiment de pouvoir faire ce genre de choses. » Là, on n'est pas dans le résultat. Là, on dépend du Seigneur, on dépend de sa faculté à nous accompagner. Oui, ça c'est... Là on est bien. Là on est, on peut dire, irréprochable. On n'offre pas de porte-à-faux. Je reformule ces quatre clés pour l'accompagnant. Premièrement, surveiller volontairement, verset 2, c'est l'appel de Dieu qui nous légitimise. Personnellement, j'ai une situation un peu particulière, par exemple. Je ne suis pas pasteur au titre de responsable d'église. Je suis à plein temps dans l'église que je fréquente, mais je ne suis pas le pasteur de l'église. Et puis en plus de ça, je fais partie des assemblées de frères. Il n'y a pas de pasteur. Donc, je suis pour les gens de la rue ou les gens qui connaissent un peu le monde protestant. Je suis, je suis missionnaire. Oui, mais je suis missionnaire à Aix-en-Provence. Ça fait un peu bizarre, quand on est missionnaire, on va en Afrique, on va aux Indes, on n'est pas à Aix-en-Provence, d'accord. Alors je fais un travail pastoral. Donc vous faites un travail pastoral, mais vous n'êtes pas pasteur, c'est déjà un peu compliqué. Mais en plus de ça, en face de mon bureau, qui est au Jas de Bouffan, il y a un thérapeute. Alors il me dit, mais tu es quoi toi? Alors il dit, je suis pasteur. Ah, tu as une église? Non, je n'ai pas d'église, non. Et qu'est-ce que tu fais? Mais je propose aux gens de les aider à sortir de leurs difficultés. Ah, et tu as fait une formation? Alors oui, j'ai fait une formation. J'ai fait la formation de l'ACC jusqu'au bout, etc. Mais c'est un peu, en espagnol on dit pipi de gato, c'est du pipi de chat. C'est pas grand-chose par rapport à un DESS de psychologie que doit avoir un psychologue. Donc en fait, je suis marginal. Au titre, mettons, dans un monde chrétien donné, je suis marginal dans la société parce qu'en fait, je n'ai pas la formation de psychologue. Et en plus de ça, je ne fais pas payer. Donc en fait, par rapport à mon voisin, lui qui rame parce qu'il a un bureau des charges, etc., il fait payer ses personnes 40 ou 50 euros la consultation, Moi, je ne fais pas payer. Alors, mais c'est quoi ma légitimité pour faire ça? Ma légitimité, c'est l'appel de Dieu. Point. Et là, ça calme, là. Hein? Parce qu'en fait, on est dans une relation directe dans laquelle on est posé. Il n'y a pas de problème. Alors, cette légitimité, ben, elle se trouve justement dans un rôle de pasteur particulier ou d'accompagnant pastoral ou de ceci ou de cela, ou de missionnaire ou de traduction à la CIL, de langue biblique. Voilà. Mais l'important, c'est d'être dans une légitimité devant Dieu. Deuxième chose, avoir une véritable motivation. C'est quoi ma motivation? C'est quoi ma motivation pour donner un cours sur la pratique pastorale? C'est de me faire briller? C'est dommage. C'est de ne pas m'ennuyer? C'est dérisoire. Non, c'est de servir. C'est de travailler à ce que la richesse de la parole de Dieu et de ce que Dieu nous donne soit connue, donnée, pour que chacun puisse se sentir bien. L'accompagnement pastoral, c'est le service après-vente de l'Église. Le problème, c'est que les gens qui viennent dans les églises, ils voient les chrétiens tellement démolis qu'ils se disent, de toute façon, c'est pareil, que tu sois à l'église ou que tu ne sois pas. Alors là, il y a un problème. Et donc, dans l'accompagnement pastoral, nous avons un véritable enjeu, quelque chose d'important à faire. Troisième chose, être les modèles du troupeau. Autrement dit, je ne suis pas en souci que la personne reçoive ce que je lui dis. Je suis en souci, moi, d'être. De marcher fidèlement avec mon Dieu, d'être. Je suis dans cette vigilance d'être. Et quand je suis, alors la personne qui est en face de moi, elle dit waouh, lui, il est, elle est, et ça marche. Et la personne qui est en face de moi va, de différentes manières, recevoir en fait tout ce dont elle a besoin à l'insu de notre plein gré, comme dirait Richard Virenque, mais ça commence à dater. Hein? C'est-à-dire, ça vous dit quelque chose? Oui, d'accord. Non, Richard Virenque, hein, le coureur du Tour de France, d'un vélo, qui dit « on m'aurait menti hein, » quand il parlait du dopage. Hein. Et donc, être le modèle du troupeau, voilà. C'est ça, en fait. Hein, pour ceux qui envisagent d'avoir une famille, être une maman, être un papa, c'est être un modèle. Mais moi, je ne suis pas. Mon but n'est pas d'être un modèle, mon but c'est d'être, en fait. Et donc, la récompense pour plus tard, c'est énorme, et peut-être qu'avec vos questions, on y reviendra dans les heures qui suivent. C'est énorme comme, comme on est dans le résultat. Comme on est content quand on pense que ça marche, et on n'est pas content quand on pense que ça ne marche pas. Mais c'est quoi ça marche? Alors vous allez être content en disant, bon, la première heure de TP 505, accompagnement pastoral, ça marche. Mais vous n'en savez rien en fait. Hein? Peut-être que vous voyez un Gugus qui est convaincu, hein, qui vous dit des choses dont il est convaincu, en plus de ça, qui est content de ce qu'il fait, et puis et vous dites, ça marche. Le problème, c'est que c'est quoi qui nous fait réussir? Intéressant que le mot réussir ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, et par contre, Romains 14, 22 nous dit, ou 23, nous dit tout ce qui n'est pas sur le principe de la conviction ou de la foi. Je crois que second traduit par conviction, mais le mot c'est pistis, je crois. Donc, tout ce qui n'est pas dans une démarche de foi est péché. Autrement dit, et Hébreux 11, 6 nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Autrement dit, c'est dans la foi que ça marche. Oui, mais la foi, c'est l'assurance des choses qu'on attend ou qu'on espère. Autrement dit, pour que ça réussisse, il faut que je sois certain que je ne peux pas savoir si ça réussit. Et là, je vous ai complètement embrouillé. Voilà. Je voudrais affirmer qu'on ne peut pas savoir si ça marche ou si ça ne marche pas en dehors du fait que Dieu est souverain et que c'est Dieu qui montrera au bout du compte ce qu'il aura fait de tout ça. Quand on est dans cette démarche, quand on reçoit quelqu'un, c'est là où on est véritablement dans la sérénité. C'est là où, avec un tableau comme celui-ci, vous verrez comment ne pas être fébrile. Hein? Comment vivre vraiment dans cette sérénité à laquelle Dieu nous appelle? Alors, y a-t-il des questions, des remarques, des objections? J'aime bien les gens qui ne sont pas d'accord. Oui. Tout le temps. Parce que péché, c'est fuir ses souffrances, clé numéro un. C'est fuir sa responsabilité ou s'occuper de ce dont nous ne sommes pas responsables, clé numéro deux. Ou c'est ne pas faire ce que Dieu me demande, ou faire ce que Dieu ne me demande pas, clé numéro trois. Oui.
Il y a beaucoup d'un côté pastoral, surtout anglo-saxon, qui travaille beaucoup sur ça. Et c'est intéressant la démarche qu'ils ont, parce que beaucoup des souffrances des gens qu'ils ont, si on met, parce qu'un BR4, c'est beaucoup sur la persécution, mais si on va sur Jacques, il dit pourquoi vous souffrez, c'est parce que vous voulez avoir, pour vous. Mm-hmm. Et voilà, c'est, vous voulez savoir quelle place vous mettez à ça par rapport à les autres, parce que beaucoup des souffrances, on dit, des souffrances, quand je ne parle pas des souffrances qui viennent de l'extérieur, mais quand on parle de la colère, c'est déjà parce que je suis pourri en moi-même et que les besoins de Christ, vu que je suis transformé en besoin de Christ.
Globalement, je suis bien d'accord. Ouais. Je ne pense pas que ça s'oppose à...
Ah non, ça s'oppose,
hein, voilà, je suis bien d'accord. Tout le temps. Hein, donc le péché, c'est ne pas voir les choses comme Dieu les voit, mais c'est aussi, dans une perspective d'idolâtrie, c'est d'avoir affaire à quelqu'un d'autre qu'à Dieu. Hein? Idolâtrie, c'est le culte, l'atrie, et il donne de ce qui, du visible. Hein? Donc, l'idolâtrie, c'est de prendre comme Dieu ce qui n'est pas Dieu. Donc, si je mets ma confiance dans des fausses sécurités, hein, les citernes crevassées de Jérémie 2, ou autre chose, je suis dans l'idolâtrie. Et donc, si je suis dans l'idolâtrie, alors je souffrirai, puisqu'en fait, l'idolâtrie m'amène souffrance. Et donc, une des raisons essentielles de la colonne de gauche, hein, de la liste de souffrance, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, il en est question deux fois dans le Nouveau Testament, hein, Éphésiens 5, Colossiens 3, à l'égard de la cupidité, l'amour de l'argent. Hein, je crois que c'est philargurie, hein, dans le grec. Autrement dit, la forme chrétienne de l'idolâtrie, on pourrait dire, dans le Nouveau Testament, de manière explicite, c'est la cupidité. Alors les gens qui sont à trois sous près, qui ne sont pas généreux, qui sont égoïstes, qui sont... Voilà donc comment est montré de manière explicite l'idolâtrie dans le Nouveau Testament. Alors, je crois que le péché est de partout. Et j'ai envie de dire que ça ne sonne pas.
Non, il y a un problème.
Bon, et donc il faut qu'on s'arrête. J'ai envie de dire, pour finir, mais on reprend dans 5 minutes. Je ne sais pas quelle heure on reprend, à 9h, non?
Non, oui, il y a 10 minutes de pause, oui. Moins 5 à 5.
D'accord. Donc je finis ma phrase et on s'arrête. C'est à nous de ne pas amener de souffrances ajoutées dans la vie. Ça, c'est très important. Autrement dit, le fond du travail pastoral, c'est de permettre à quelqu'un de ne pas ajouter de souffrances aux souffrances du parcours. Et les souffrances qu'il ajoutera, il les ajoutera à cause du péché. Chaque fois qu'il fera mal, il se fera mal. À tout à l'heure. Mais on peut en parler ensemble.